défenseur des droits humains et qui nous vient de Colombie et qui était à Évreux le lundi 5 novembre dernier. Et on a profité de sa venue ici à Évreux pour l'enregistrer. Et c'est cette interview de lui qu'on va vous rediffuser, que bien sûr, cette interview a été retraduite depuis sa venue, puisqu'il parle espagnol, a été retraduite en français. Et donc, elle va être diffusée en deux parties au cours de cette émission. Et ça va constituer le morceau de choix, si je puis dire, du contenu de cette émission de ce soir. Donc, émission particulière avec l'interview de Renzo. Mais avant, on va quand même vous donner quelques informations sur nos actualités, comme on vous fait tous les mois. Et pour commencer cette émission, je vais vous dire quelques petits mots sur l'actualité du week-end qu'on vient de passer avec les manifestations contre la violence faite aux femmes, puisque samedi était la journée internationale contre la violence faite aux femmes et qu'il y a eu plusieurs manifestations à travers le monde et à peu près 50 000 personnes qui ont été réunies en France, à Paris et dans d'autres villes. Et donc Amnesty a donné un communiqué hier sur son site par rapport à cette journée, et je vais vous en lire juste quelques lignes. En ce moment, de courageuses femmes initient un changement dans toute l'Europe en menant un combat pour que leur gouvernement adopte des lois basant la définition du viol sur l'absence de consentement plutôt que sur l'utilisation de la force, et pour qu'ils améliorent la façon dont le système judiciaire traite les victimes de viol. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, rendons hommage aux femmes qui continuent de se battre pour défendre leurs droits incontestables à l'autonomie quant à leur propre corps. Le nombre de femmes violées en Europe, encore actuellement, est scandaleusement élevé. Dans l'Union européenne, une femme sur 20 âgée de plus de 15 ans a été violée et une sur 10 a subi une forme ou une autre de violence sexuelle. Pour commencer, un rapport sexuel sans consentement est un viol. C'est aussi simple que cela. Il est surprenant de constater que cette simple vérité ne transparaît pas dans la législation de la plupart des pays européens. Amnesty International a étudié la législation relative au viol dans 31 pays d'Europe et 8 d'entre eux seulement ont adopté des lois définissant le viol comme un rapport sexuel sans consentement. Tous les autres ont basé leur définition du viol sur l'usage de la force, la menace de l'usage de la force ou de la contrainte, ou l'incapacité de la victime à se défendre. Donc ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a plusieurs pays dont l'évolution législative va dans le sens de ce que demande Amnesty, à savoir que le viol soit considéré comme tel à partir du moment où il n'y a non-consentement de la femme. Et cette année, l'Islande et la Suède sont devenus les 7e et 8e pays d'Europe à adopter une nouvelle loi basant la définition du viol sur l'absence de consentement. Et il est dit effectivement aussi un petit peu après, dans les différents exemples qui sont cités, bon je ne vais pas vous lire tout le communiqué que vous trouvez sur le site d'Amnesty, mais dans les différents exemples qui sont cités, on parle aussi de l'évolution de la législation qui a lieu en ce moment en Irlande, et je pense que c'est symbolique, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est symbolique de ce que peuvent faire les femmes pour défendre leurs propres droits et lutter contre cette... malheureusement ce qui reste au niveau des violences sexuelles faites à l'égard des femmes. Et donc Amnesty dit la chose suivante: les récentes manifestations et la campagne en ligne menée en Irlande à la suite du procès pour viol au cours duquel le string d'une adolescente a été montré aux jurés constituent un autre exemple encore d'action et de mouvement de solidarité alimenté par la colère des femmes. Dans les heures qui ont suivi la publication de cette affaire dans les médias, des centaines de femmes ont posté des images de leurs sous-vêtements sur les réseaux sociaux, tweetant « This is not consent », ce qui veut dire en français « ce n'est pas un consentement », pour exprimer leur opposition au blâme rejeté sur la victime. Voilà, et donc Amnesty conclut en disant « Le courage de toutes ces femmes ne doit pas être sous-estimé. Le récit de ce qu'elles ont subi est d'une importance cruciale pour faire comprendre aux décideurs politiques que l'absence de consentement doit être reconnue juridiquement et dans la pratique comme caractérisant le viol et qu'il faut mettre un terme à l'impunité. » Voilà, et moi je voudrais dire un petit mot, alors c'est pas dans le communiqué, mais un petit mot personnel, parce que moi bien évidemment je suis un homme et pas une femme, et je voudrais dire aussi aux mecs qui se livrent à des abus sexuels quels qu'ils soient, que ces mecs-là aussi, ils me salissent moi en tant que mec, parce que je veux dire, on entend souvent la voix des femmes, ce qui est tout à fait normal, mais il y a aussi les hommes qui les défendent, et que moi ils me salissent en tant que mec, et qu'un rapport sexuel effectivement doit être fait dans le désir réciproque et dans l'amour, jamais dans la violence. Voilà, je ne sais pas si Mina, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire sur la violence faite aux femmes. Mina !
Oui,
Mina était plongée dans ses notes.
Non, mais j'allais faire rebondir sur ce que tu as dit et que Merci d'avoir parlé pour les hommes qui respectent les femmes.
Oui, voilà. Ça me paraît indispensable. Voilà, donc on va vous dire, alors on va vous parler de, là aussi, avant l'interview de Renzo, on va vous parler d'actualité locale. Parce qu'il y a une grosse campagne, enfin vous la connaissez peut-être si vous avez déjà écouté nos émissions les années précédentes, il y a une grosse campagne de mobilisation et de signatures, de pétitions et de signatures de messages de soutien qui s'appelle 10 jours pour signer et qui ont lieu cette année une nouvelle fois au début du mois de décembre, puisqu'au mois de décembre c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains. Et d'ailleurs cette année c'est particulier parce que c'est le 70e anniversaire, donc c'est une date encore plus importante. Et la campagne a lieu du 1er au 10. Donc on a effectivement 10 cas qu'on va proposer aux signatures. Et nous, à Évreux, on va les proposer dans les antennes jeunes, dans le lycée d'Aristide Briand, dans les différentes antennes jeunes pendant la semaine du 1er au 10. Mais aussi, on va les proposer aux signatures, vous pouvez déjà le noter, le samedi 8 décembre. On va tenir un stand au Miroir d'Eau, c'est Samina. Un stand de signature en centre-ville au Miroir d'Eau. Et on va aussi les proposer aux signatures lors de l'émission, on va en parler tout à l'heure, Fréquence Droits Humains, qui aura lieu en direct du 13 bis le jeudi 6 décembre.
Oui. Le 13 bis, c'est où? C'est quoi?
C'est rue Isambard, c'est un bar.
D'accord.
Et donc on fera l'émission en direct Fréquence Droits Humains sur le thème du 70e anniversaire de la Déclaration universelle de 18h à 19h30, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Voilà. Donc, puisque cette campagne donc, a lieu du 1er au 10, 10 jours pour signer, Mina, tu peux nous parler de quelques cas? On va commencer par le premier.
Oui, alors le premier cas se situe au Kenya, c'est le peuple autochtone Sengver. Ils ont été expulsés avec violence de leur forêt. Ce peuple vit depuis des siècles dans l'immense forêt d'Ambobout. Apiculteurs et éleveurs de bétail, ils sont expulsés de force par le gouvernement au nom de la conservation pour protéger les forêts et répondre au changement climatique. Depuis 2012, les gardes forestiers et la police ont mis le feu à 2600 maisons et quelques 4500 personnes se sont retrouvées brutalement sans abri. En janvier 2018, un homme de 41 ans a été abattu et un autre gravement blessé lors d'une descente du service forestier. Cette violence est une violation flagrante des ordonnances judiciaires censées protéger cette communauté autochtone. Évincés de leur forêt, de leur maison, certains Sengver se retrouvent dans le dénuement le plus total. Les femmes en particulier sont les plus durement touchées, contraintes parfois de s'occuper seules des enfants quand leur homme reste dans la forêt ou abandonne leur famille. Le gouvernement prétend qu'il veut réduire la déforestation, mais il n'existe nulle preuve que les Sengver nuisent à la forêt. L'empreinte environnementale de ce peuple est justement très faible et il devient au contraire être reconnu comme propriétaire gardien naturel de la forêt d'Ambobout. Nous demandons aux autorités de retirer toutes les restrictions sur l'accès et l'occupation de la forêt, d'entamer un processus de consultation avec le peuple sur les droits fonciers et la conservation des forêts, d'octroyer le droit de recours et réparation, c'est-à-dire restitution, excuse publique, indemnisation et garantie de non-répétition, et d'adopter une législation qui assure les principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement de l'ONU. Donc à partir du 1er décembre, vous pourrez signer pour ce cas qui se passe au Kenya. Un deuxième cas?
Oui, je peux vous parler de Nonle Mbutumba. C'est encore un nom difficile à dire, qui nous vient d'Afrique du Sud et qui est menacé pour avoir défendu sa terre contre les appétits d'une compagnie minière. Donc Nonle Mbutumba est à la tête d'une campagne contre un projet d'extraction de titane qu'une société minière australienne, Mineral Commodities, cherche à imposer dans la province du Cap Oriental en Afrique du Sud. Cette femme d'une quarantaine d'années est membre de la communauté Amadiba qui possède des droits communautaires sur cette terre située dans la région du Pont d'Hollande et connue pour sa biodiversité. S'il est autorisé, le projet minier aura pour conséquence l'expulsion forcée d'environ 5000 personnes qui perdront ainsi leur foyer, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Alors, Nolé nous déclare la chose suivante. « Mon grand-père et les anciens m'ont appris l'importance de la terre. C'est la seule chose que nous partageons avec les générations futures. Une fois perdue, aucune compensation ne peut être suffisante. » En 2007, Nolé a cofondé le comité de crise Amadiba, qui réunit 5 villages pour mieux combattre le projet en mobilisant médias, avocats et ONG. Nolé, qui a survécu à une tentative d'assassinat, reste la cible de menaces de mort. Elle doit ainsi se cacher ou faire appel à des gardes du corps. En 2016, l'un de ses collègues, Siso Chipi Bazuka Radebe, a été tué peu après avoir confié être numéro 1 sur une liste noire, sur laquelle Nolé figurait en deuxième position. Le crime est resté impuni. Alors nous demandons aux autorités de garantir la sécurité de Nolé et de le reste des défenseurs des droits humains, enquêter sur les menaces et intimidations à son encontre, rendre publiques les conclusions et s'assurer que les responsables sont traduits en justice. Respecter le droit de la communauté d'Amadiba à la consultation et au consentement concernant l'octroi de droits miniers à toute entreprise. Voilà. On va peut-être écouter un petit peu de musique avant le début de l'enregistrement de l'interview. Pas de diffusion, pardon, de l'interview.
Ok. À tout de suite. Fatoumata Diawara, engagée dans un album d'un collectif de femmes pour le droit aux femmes. Et là, c'est dans son album qui s'appelle Fatou. Et c'était le titre Sowa.
Bien, donc, comme on vous disait en début d'émission, on va commencer à écouter l'interview de Renzo, qui sera divisée en deux parties. Et puis, nous, on va reprendre l'antenne pour quelques minutes, tout à fait à la fin. Et donc voilà, c'était donc Renzo qui est venu nous voir le lundi 5 et qui nous vient de Colombie, défenseur des droits humains colombien, et qui nous a longuement entretenu sur son combat.
Rediffusion d'une émission Principe Actif.
Eh bien,
une rediff, quoi.
Bonsoir tout le monde. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Renzo Alexander Garcia Martinez. Il m'excusera de parler de son nom en français parce que je ne parle pas espagnol, mais qui nous vient de Colombie. Et donc, il va nous parler de son activité en Colombie et de son engagement par rapport aux droits humains. Juste pour faire une petite présentation, donc Renzo est colombien et a une formation de biologiste. Il est cofondateur du Comité environnemental pour la défense de la vie, dit CADV, le réseau des comités environnementaux de Tolima et le mouvement national pour l'environnement, mouvements sociaux environnementaux en Colombie qui encourage des actions de défense du territoire contre l'imposition de projets extractifs. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Renzo, car il vient de participer la semaine passée, donc fin octobre, au sommet mondial des défenseurs des droits humains qui était organisé à Paris pendant 3 jours. Donc nous allons l'interroger par rapport à sa participation à ce sommet et aussi bien sûr à la situation et à la défense des droits humains en Colombie. Donc bonjour Renzo. Et ma première question, ça portera sur le sommet des défenseurs. Quelles sont vos impressions, vos réactions après votre participation à ce sommet et quelles sont les décisions qui ont été prises à l'issue de ce sommet?
Bueno, pues inicialmente dar un saludo muy especial a agradecerles por el espacio.
Je voudrais saluer la radio Principe Actif pour l'opportunité qu'elle m'offre de m'exprimer. Entre les 29 et le 1er novembre a eu lieu le 2e sommet mondial des défenseurs des droits humains. Un sommet très important, car c'est le 20e anniversaire de cet événement. Et il existe aujourd'hui encore des grandes préoccupations au sujet des droits de l'homme. On voit clairement dans le monde entier que les personnes défendant les droits humains continuent à être assassinées et stigmatisées. Et c'est le principal sujet de préoccupation de ces sommets. À cela, il faut relier les thèmes de la défense des droits de la terre et de l'environnement. On pense qu'il est nécessaire pour l'humanité de faire face au sujet de la perte de la biodiversité et du changement climatique, du problème de l'eau et prendre conscience de l'interdépendance entre l'être humain et son environnement.
Conectividad de la ecodependencia que hay entre los seres humanos y nuestros entornos naturales. Estuvimos reunidos cerca de 150
nous étions presque 150 personnes de toute origine à assister au sommet. Et nous sommes tous arrivés à la même conclusion, à savoir combattre la logique d'un monde mercantile qui transforme tout en marchandise et qui entrave la possibilité de faire respecter les droits humains et de garantir la dignité de tous les êtres humains. Nous considérons qu'il est nécessaire de tirer la sonnette d'alarme pour que les États respectent les droits humains et le plan d'action résultant du sommet. Il faut que les États soient garants des droits de l'homme et de leur non-violation. Les entreprises doivent faire de même en étant plus cohérentes, plus sensibles. Et elles doivent changer leur logique de pillage et de non-respect des êtres humains.
De saqueo, de despojo y de abuso frente al tema de los derechos humanos.
Par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, et par rapport à ce sommet, pouvez-vous nous préciser un peu quelles décisions ont été prises par rapport au respect des droits humains? Vous disiez que malheureusement, les droits humains sont plutôt en déclin dans bon nombre, enfin, le respect des droits humains est plutôt en déclin dans bon nombre de pays et de démocraties. Est-ce qu'à l'issue de ce sommet, des plans d'action ont été mis en place, des décisions ont été prises pour qu'un meilleur respect des droits humains, au sens le plus large du terme, soit effectif?
Sí, evidentemente hay un plan de acción que
ces plans d'action doivent aussi être respectés par les organismes multilatéraux, comme l'Organisation internationale du travail. Tout a tourné autour du fait d'exiger des États qu'ils garantissent la non-violation des droits humains de leur population. Et pour qu'ils s'agissent comme régulateurs du rôle des entreprises sur leur territoire, pour qu'elles ne violent pas les droits de l'homme et qu'elles reconnaissent que le développement économique doit aussi donner la possibilité d'une vie digne. Là où ces entreprises développent leur activité dans chacun de leurs aspects. Et aussi que l'État soit garant des droits de la nature, ou comme on dit en Amérique latine, de notre terre-mère, car l'on considère qu'il y a une interdépendance entre la qualité de vie des êtres humains et la conservation de notre écosystème. La conclusion très importante de ces sommets était de trouver comment parer à la criminalisation, aux assassinats, à la persécution et à la stigmatisation des défenseurs des droits humains au niveau national.
La stigmatisation de los defensores de derechos humanos a nivel mundial.
Depuis que vous répondez à votre participation à ce sommet, vous parlez très souvent de défense des droits à la terre, aux droits de l'environnement, etc. Bon, c'est une problématique au niveau de la défense des droits humains qui, pour nous, je parle au niveau des militants en plus dans les pays européens, qui est un peu plus récente, de faire le lien entre droits écologiques et droits humains. Voilà, c'est quelque chose qui est apparu depuis quelques années. Et comment vous, dans votre expérience en Amérique du Sud, ce lien entre droits écologiques et droits humains est-il vécu? Quelles sont les campagnes qui découlent de ces mobilisations? Et comment voyez-vous, encore une fois, un meilleur respect des droits écologiques et donc des droits humains en Colombie?
Bueno, a partir de que no puede haber un ejercicio de defensa de los derechos de la tierra y el ambiente.
Il ne peut pas y avoir une défense de l'environnement sans défense des droits des populations.
Eso se encuentra interconectado.
Ils sont interdépendants.
Interdependientes. No puede estar por un lado una cosa.
Nous organisons des événements et des campagnes pour défendre les droits à l'accès à l'eau potable, la vie, les territoires, les dynamiques de vie paysanne, les cultures des gens, la possibilité qu'il existe un développement économique qui respecte les identités des peuples et les droits des autochtones pour qu'ils puissent continuer à être paysans, à cultiver directement leurs terres sans qu'ils soient persécutés par les États et pour éviter que les gouvernements change complètement le modèle de production. Car c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Depuis, le gouvernement central de Bogota donne des ordres et impose des projets sans consultation et c'est cela qui génère des violences et de nouveaux conflits socio-écologiques. Pour nous, il y a une relation indissociable entre ces deux sujets. Nous pensons que le monde entier doit faire volte-face pour que nous nous reconnections de nouveau avec les droits de l'homme et pour qu'il existe une meilleure relation entre les hommes et les femmes qui habitent cette planète. Mais aussi pour que la société comprenne qu'elle doit améliorer sa relation avec la nature et que cette dernière a aussi ses droits.
Con la madre tierra, con la naturaleza, porque allí hay una ecodependencia, pero también porque tenemos que entender que la naturaleza también son sujeto de derechos.
Justement, par rapport à cette interconnexion droits écologiques et droits humains, qui sont effectivement pour nous aussi les deux faces de la même médaille, pouvez-vous nous dire plus au niveau concret quelles sont vos actions en Colombie, comment vous vous positionnez, quels sont les gens que vous soutenez, vos actions sont organisées, etc., etc. Quels résultats vous obtenez? Enfin, c'est un très vaste sujet, mais pouvez-vous nous résumer un peu votre activité de défenseur des droits humains en Colombie?
Bueno, yo vengo de una región colombiana.
Je viens d'une région colombienne qui s'appelle Cajamarca, Tolima, de la ville d'Ibagué, capitale du département. Nous accompagnons la population de toute la région. Depuis 15 ans, le gouvernement national veut imposer un projet de mine à ciel ouvert qui s'appelle La Colosa et qui est la propriété d'une multinationale sud-africaine qui s'appelle Anglo Gold Ashanti. C'est un projet qui risque de faire disparaître nos montagnes, à cause de l'or qui se trouve dans le sol. On l'appelle de l'or invisible, car on peut trouver un gramme d'or dans une tonne de roche. Il s'agit d'un rapport de 1 pour 1 million. Pour que cela puisse être exploité, il faut détruire les forêts, remuer les sols, dynamiter la montagne. Cette roche qui est détachée de la montagne est ensuite brûlée, puis lavée avec de grandes quantités d'eau mélangées avec du cyanure. Évidemment, cela génère des problèmes environnementaux très forts liés à la pollution des sols, de l'eau, de l'air, et cela génère aussi de la concurrence entre les peuples pour pouvoir accéder à l'eau. Car cette activité monopolise une grande quantité de l'eau disponible, notamment pour les activités agricoles. Notre mouvement a commencé il y a 11 ans. Nous voulions au début comprendre la problématique pour pouvoir construire un mouvement social et environnemental que nous appelons le Comité environnemental de la défense de la vie. Au début, nous avions trois grandes stratégies. D'abord, fortifier les mouvements sociaux. Pour ça, nous réalisons des carnavals qui sont à la base des activités artistiques créatives dans lesquelles les citoyens sortent de la rue déguisés, maquillés et dansent sur de la musique. Cela nous a donné la possibilité de créer des mobilisations gigantesques. Le 12 juin 2016, à Ibagué, nous avons organisé une marche suivie par 120 000 personnes, ce qui représente un habitant sur 6 de la capitale. Nous avons manifesté activement pour défendre l'eau, la vie, le territoire et les droits collectifs, politiques et civils. Nous défendons aussi la démocratie dans notre pays, parce que la Cour constitutionnelle veut inverser les principes de participation citoyenne, remettre en cause l'autonomie du territoire et les droits collectifs à un environnement sain. La marche s'est déroulée aussi dans d'autres départements, Caquetá, Santander et les Quindío, et même à Bogotá, la capitale de la Colombie. Cela démontre que nous sommes en train de consolider notre mouvement national pour la défense des droits fondamentaux. Nous arrivons progressivement à redonner vie aux pratiques démocratiques et à la réclamation par les peuples de ces droits. Les gens sortent dans la rue avec toute leur créativité et veulent opposer leur culture de vie que nous représentons en tant que défenseurs du territoire à la culture de la mort et des pillages que représentent les gouvernements nationaux et les multinationales. La deuxième activité que nous réalisons se déroule avec des diplômés universitaires bénévoles. Chaque semestre, nous formons des leaders sociaux et des paysans sur les sujets de la gestion environnementale et territoriale. Nous avons réussi à ce que des chercheurs et des académiciens travaillent pour notre association gratuitement. Nous aidons aussi en tant que comité environnemental avec des discours, mais principalement en gérant la logistique des événements. Le troisième axe est en lien avec des litiges stratégiques, c'est-à-dire comment utiliser tous les outils juridiques et institutionnels pour défendre légalement nos droits en tant que citoyens colombiens. Nous pensons que toute stratégie doit fonctionner de façon intégrale.
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Renzo, donc militant des droits humains en Colombie, qui était à Évreux le 5 novembre dernier. Et donc on va écouter un petit peu de musique dans quelques instants, et puis on est